franceinter.fr.
France Inter, 8h31. La revue de presse de Frédéric Pommier. Bonjour Frédéric.
Bonjour Patricia, bonjour Pierre.
Bonjour.
Et bonne année à tous. Que 2016 soit pour vous une année. Mais une année quoi ? Après l'ambiance inquiète et lourde de l'année 2015, difficile de trouver les mots justes et adaptés, et plus difficile encore d'en trouver qui riment avec 2016. Pour 2016, on se souhaite quoi ? Une année pas mauvaise ? Une année sans malaise ? Une année pleine de pèse ? Une année à manger des fraises sur une chaise en charentaise ?
Non.
Une année chaude comme la braise ? Ou bien simplement une année meilleure que celle qu'on vient de passer ? Mais l'actualité de ces dernières heures n'invite pas franchement à l'optimisme, ainsi qu'en témoigne la une du Figaro ce matin. France, Allemagne, Israël, Afghanistan, actes et alertes terroristes se multiplient. À Valence, dans la Drôme, un automobiliste a foncé hier sur 4 militaires en faction devant la mosquée. Cependant, ses motivations restent toujours mystérieuses. À Munich, 2 gares ont été fermées jeudi soir par crainte d'attaques islamistes. À Tel Aviv, un arabe israélien a ouvert le feu à l'arme automatique sur des terrasses de café. Des scènes d'horreur, de morts et 6 blessés, dont certains grièvement. Et l'homme n'a pour l'heure pas encore été arrêté. Et puis à Kaboul, un attentat suicide revendiqué par les talibans a visé un restaurant français, un mort et des blessés. À quoi s'ajoute au Pakistan l'attaque ce matin d'une base aérienne de l'armée indienne par un groupe d'islamistes présumés. Pas sûr dès lors que 2016 s'annonce vraiment comme une année plus sereine que la précédente. D'ailleurs, les journaux ce matin continuent d'évoquer les attaques subies par la France l'an dernier, les attentats du mois de janvier comme ceux du 13 novembre.
Et c'est à lire à travers 2 récits publiés dans Aujourd'hui Parisien et dans Libération.
Témoignage d'abord dans Le Parisien d'une jeune femme de 23 ans. Elle s'appelle Zari. Et c'est elle qui tenait la caisse de l'hypercachère de la porte de Vincennes à Paris. Lors de la prise d'otage menée par Amédi Coulibaly, celui-ci lui a d'ailleurs tiré dessus alors qu'elle s'était réfugiée sous sa caisse. Mais elle n'a pas été touchée. Retour donc sur ce huis clos tragique qui a coûté la vie à 4 hommes. Elle raconte pour la première fois l'entrée du terroriste et sa peur de mourir. Sa lâcheté aussi, quand lorsqu'elle a tenté d'ouvrir le rideau de fer du magasin, elle a lancé que c'était un autre otage qui le lui avait demandé. Zari est une miraculée, mais nous explique le journal, elle est finalement otage à jamais de l'hypercachère. Parce qu'elle n'arrive pas à oublier, parce qu'elle est rongée par la culpabilité et parce que les attentats du 13 novembre ont fait tout ressurgir et que depuis, ces jours et ces nuits sont hantés par les cris, les bruits, les détonations, le sang et l'odeur des balles qui l'assaillent. Son projet désormais, une fois qu'elle ira mieux, quitter la France et partir en Israël pour devenir sage-femme. J'ai dit-elle, tellement vu la haine et la mort que j'ai besoin de me rappeler ce qu'est la vie. L'autre témoignage, l'autre récit, c'est celui d'Anne Hidalgo, la maire de Paris, qui raconte à Mathieu Écoiffier dans Libération de quelle manière elle a vécu la nuit des attentats du 13 novembre à Paris. Anne Hidalgo, ce soir-là, s'attarde avec Bruno Julliard, son premier adjoint, à l'inauguration du village de Noël des Champs-Élysées. On était, dit-elle, dans un truc rigolo et improbable, il y avait Patrick Sébastien, il y avait Kenji, c'était le début d'un week-end chargé. Pour moi, il faisait doux, on était bien. Elle rentre chez elle, dans le 15e arrondissement, à 21h15. 10 minutes plus tard, Mathias Vichra, son directeur de cabinet, l'appelle. Il vient de recevoir un coup de fil de son homologue à la préfecture de police. C'était juste après les fusillades des terrasses. On n'avait pas encore d'éléments sur le Bataclan. Mathias me dit qu'il se passe quelque chose de grave. On ne sait pas encore si c'est un règlement de compte ou une attaque terroriste. Mais très vite, on sait. Raconte Anne Hidalgo. Elle est allée sur place et elle a vu les victimes, les visages hagards, les corps, ce n'étaient que des jeunes, les têtes de ces jeunes, c'était les têtes de mes gamins, raconte-t-elle. Son entourage murmure qu'elle a changé, que ce 13 novembre l'a changé, qu'elle a changé de stature. Elle, vous savez, ce n'est pas seulement les attentats, mais la politique nationale, je ne supporte plus. Ce ne sont pas les personnes, je discute avec celles de ma famille politique, je peux avoir des désaccords, ce n'est pas grave, mais je suis dans un état où je ne supporte plus ce niveau d'affrontement, de jeu et de posture. Derrière son bureau, on aperçoit, raconte le journaliste de Libération qu'il a rencontré, derrière son bureau, on aperçoit un dessin encadré de plantus, reprenant une citation de Sénèque, « Vivre, ce n'est pas attendre que l'orage passe, vivre, c'est apprendre à danser avec la pluie ».
On dit que le malheur des uns fait le bonheur des autres. Frédéric, l'expression se vérifie en matière de tourisme.
Oui, depuis les révolutions arabes de 2011 et surtout la propagation du terrorisme islamiste, les vacanciers ont déserté certains grands pays musulmans autrefois considérés comme des destinations de rêve. C'est le cas notamment de l'Égypte, de la Jordanie, mais aussi de la Tunisie. Or, dans le même temps, la côte des Outre-mer français se porte de mieux en mieux. Réservation en hausse ces deux dernières années en Guadeloupe et en Martinique. Idem pour l'archipel polynésien, où les croisières ont augmenté de plus de 40%. Aucune île n'est d'ailleurs en reste. En 2014, la Nouvelle-Calédonie a ainsi attiré 22% de touristes japonais supplémentaires, comparé à 2013. Chiffre donné par Mariana Grépiné dans Paris Match et commenté par Georges Paul-Angevin, la ministre des Outre-mer. Aujourd'hui, estime-t-elle, la stabilité et la sécurité dans les îles françaises sont de vrais atouts. Puis elle ajoute, dans les Antilles, on nous dit que certes, les serveuses ne sont pas aimables, mais que là, au moins, il n'y a pas de bombes.
L'hebdomadaire nous donne par ailleurs des nouvelles du chien du président de la République.
Oui, même des nouvelles des chiens, des présidents de la République. Je sais que les informations canines vous passionnent, Patricia. Où l'on découvre que c'est le même homme qui a fourni un labrador à nos trois derniers chefs d'État. Un vétérinaire, François Lubrina, président de la Fondation des anciens combattants français de Montréal, c'est lui qui l'an dernier a fait cadeau d'une femelle labrador à François Hollande, la petite Philae, qui depuis, assure-t-il, s'est parfaitement acclimatée. C'est lui aussi qui, avant cela, avait offert un labrador à Jacques Chirac. L'animal s'appelait Mascou et le journal nous apprend qu'à sa mort, il a été enterré dans le plus grand secret au pied d'un arbre du parc de l'Élysée. Décision de son maître, lequel préférait de loin son labrador au braque d'Auvergne que lui avait donné Giscard et qu'il avait rapidement choisi de surnommer Ducon. Là, je parle du chien. Et après Chirac, c'est donc encore ce vétérinaire de Montréal qui fit cadeau d'un labrador à Nicolas Sarkozy. Une gentille femelle blonde prénommée Clara, mais la défaite de son propriétaire en 2012 a signé son exil de la famille Sarkozy. Parce que chez Carla, où s'est installé Nicolas, il y avait déjà deux chats et Dumbledore, un chihuahua. Chez Carla, pas de place pour Clara. Et la chienne fut alors placée chez un couple auquel l'ancien chef de l'État continue, nous dit-on, de payer une pension. Il paraît même qu'il prend parfois de ses nouvelles.
Clara, Carla ?
Eh oui. Et puis à propos d'animaux, le canard enchaîné a relevé ce tweet balancé le week-end dernier par l'inénarrable et pas toujours très inspirée Christine Boutin. Sa réflexion post-réveillon de Noël à propos de la polémique sur la déchéance de nationalité. Voilà donc ce qu'elle a écrit. Le droit du sol et l'absurdité qui consiste à dire qu'un cheval est une vache parce qu'il est né dans une étable. Mais où va-t-elle crêcher tout cela, s'interroge l'hebdo satirique. À quoi j'ajoute que comparé à des chevaux et à des vaches, les Français binationaux, ce n'est sans doute pas très chrétien. Vous l'avez reconnue, Patricia?
Bah oui, c'est Madonna.
Madonna. Mais oui, bien sûr.
Bah oui, c'est aussi l'a reconnue.
C'est pas Christine Boutin?
Ah bah non, ça non.
Madonna, dont on ne cesse de se gausser depuis maintenant plusieurs années, mais qui reste la plus iconique des pop stars, et c'est l'écrivain Virginie Despentes qui lui rend hommage dans Elle. C'est super bien écrit et ça montre également que vivre, comme le disait le dessin de Plantu, que vivre, c'est chanter, c'est également danser. Nous évoquions les propos de Christine Boutin sur la déchéance de nationalité. Lire ce matin le soutien à François Hollande, soutien de Serge Dassault, qui comme tous les ans signe son édito dans le Figaro. Et il dit qu'il faut soutenir cette décision du président de la République. Je ne sais pas si c'est un soutien dont pourra se servir vraiment François Hollande. Le sondage du jour est à lire dans Le Parisien.
On va demander ça à
Odoxa sur les vœux des Français pour la prochaine présidentielle. Plus précisément sur ce que les Français ne veulent pas. Or, 3 sondés sur 4 ne veulent ni de Hollande, ni de Nicolas Sarkozy. Seul un quart des personnes interrogées disent souhaiter que les deux hommes se présentent en 2017. À l'inverse, elles sont une majorité à souhaiter que le maire de Bordeaux, Alain Juppé, soit candidat.
Dans la presse régionale, cette fois Frédéric, retour ce matin sur les chiffres du dernier recensement de la population française.
Une population estimée à 65,5 millions de personnes, selon les chiffres publiés par l'INSEE avant-hier. Mais dès lors, comment cela se répartit-il? Comment cela se répartit-il? Avec des plus et des moins, la Marne continue de gagner des habitants, se félicite l'Union. À l'inverse, Paris-Normandie nous dit que les Rouennais sont de moins en moins nombreux. Après les différentes rétrospectives de l'année qui vient de s'écouler, je terminerai avec ces infos de la presse qui multiplient les dossiers sur ce qui devrait faire l'actu des 12 mois qui viennent. Ainsi, Jeune Afrique, qui dresse la liste des personnalités qui feront l'Afrique en 2016, une année marquée par une quinzaine d'élections présidentielles sur le continent. Ainsi également le mensuel artistique L'Œil, qui offre son calendrier des exploits ne pas manquer. Une année au cours de laquelle seront notamment célébrés les 500 ans de la disparition du peintre néerlandais Jérôme Bosch. Ainsi encore Votre Beauté, qui nous présente les produits phares de 2016, soins
du visage, Votre Beauté,
et maquillage, soins du corps et autres shampoings. Mais oui, c'est top, en 2016, on aura de nouveaux shampoings. Et moi, tout bien réfléchi, je souhaite tout simplement que 2016 soit une année qui vous plaise. Vous avez reconnu Patricia ?
Non.
C'est Christine Boutin.
C'est vrai ? C'est la reprise de Frédéric Pommier.